forme de résistance. À travers les yeux de sa fille, Pat Pro va parcourir trois époques clés de l'histoire de son peuple. Un récit vibrant et engagé au cœur de la forêt brésilienne. La fleur de Buriti, le 1er mai au cinéma, un film France Inter.
Il est 8h. Le journal Corinne Audouin, bonjour Corinne.
Bonjour à tous.
À la une ce matin, un homme et une flamme.
Il a veillé toute la nuit sur la flamme olympique avant son voyage vers Marseille à bord du Belém. Tony Estanguet l'a reçu hier à Athènes des mains des Grecs. Vous entendrez le patron des JO de Paris, ému et fier dès le début de ce journal. Tandis que le métro parisien voit la vie en rose, c'est la couleur de la signalétique spéciale JO. Notre reporter l'a testé pour vous à la station Madeleine. Dans l'actualité aussi, la mansuétude des agences de notation, Moody's et Fitch n'ont pas baissé la note de la dette souveraine de la France. La loi britannique sur l'expulsion des demandeurs d'asile au Rwanda ne décourage pas les candidats à l'exil. Nous ferons étape au printemps de Bourges, concert de Thomas de Pourquerie hier soir. Et puis un grand chelem en jeu en rugby et un compte à rebours pour Raphaël Nadal dans le journal des sports de Nicolas Perronnet. Avant votre invité à 8h20, Asie
et
Marion.
Et ça a à voir avec le sport aussi, même si elle dirige le plus grand musée de France et même du monde, le Louvre qui est au cœur des Jeux Olympiques avec des visites sportives du musée. Et cette exposition, l'Olympisme, une invention moderne, un héritage antique. Notre invité exceptionnel sera la présidente directrice du Louvre, Laurence Descartes.
Votre passion pour le sport, votre passion pour l'art en l'occurrence, vous pouvez nous appeler et poser toutes vos questions à Laurence Descartes au 01 45 24 7000 ou sur l'application France Inter.
France Inter. Tout feu, tout flamme, Tony Estanguet, le monsieur JO de Paris 2024, a reçu hier après-midi au stade d'Athènes le précieux flambeau. La flamme olympique s'apprête à embarquer sur le Belém ce matin, départ prévu dans environ 2 heures. Le 3 mât quittera le Pirée pour voguer vers Marseille. À bord, le président du comité d'organisation de Paris 2024, Tony Estanguet, ému et fier.
Hier, j'ai eu ma petite larme et une très forte émotion. C'est vrai que voilà, c'est un immense honneur. Ça y est, nous avons récupéré la flamme dans ce stade panathénaïque mythique, là où un peu tout a commencé en 1896. Et ce matin, elle monte à bord du Belém, là, et c'est parti pour une très belle traversée. C'est un beau symbole, ramener la flamme en France à bord de ce plus vieux trois-mâts qui date de 1896 lui aussi. Et l'équipage des jeunes, 15 jeunes de toute la France, ils vont ramener et vivre cette expérience incroyable.
Tony Estanguet, invité de France Info. Le Belém accostera le 8 mai à Marseille avant un périple de 2 mois et demi pour la flamme à travers la France. Le premier relayeur sur le sol français sera le nageur et quadruple médaillé olympique Florent Manaudou. Et pendant que la flamme se balade, l'Île-de-France se prépare à la déferlante de touristes attendus pendant les Jeux Olympiques. 10 millions de visiteurs qu'il va falloir guider dans les transports parisiens. Depuis quelques jours, la signalétique spéciale JO apparaît dans le métro, des flèches, des icônes, des panneaux et même le nom des stations sur fond rose pour trouver le chemin du Stade de France ou pour éviter la foule. Est-ce qu'on s'y retrouve ? Reportage de Robin Schmitt à Madeleine, à Paris, qui fait office de station test.
En contrebas des escaliers du métro, un panneau rose recense les 28 sites olympiques de Paris et les plus de 70 trajets pour s'y rendre. Xavier Guépet, porte-parole d'Île-de-France Mobilité.
Il y a tous les symboles des Jeux Olympiques qui apparaissent, les symboles des endroits, les différents modes d'accès. Donc on va guider les gens au mieux dans les espaces olympiques.
Mais dans la foule du métro, difficile de trouver des usagers convaincus.
De base, moi je trouve ça assez logique de se mouvoir dans le métro, les bus, tout ça à Paris en vrai. Mais là, c'est clairement pas lisible. Hein.
Pas très clair non plus pour Marianne, une touriste anglaise.
Bon, on connaît la complexité du métro, mais non, c'est vraiment pas facile. Je crois que Google Maps, ça va être plus simple. Il faut le rendre un peu plus tactile ou quelque chose qu'on peut interagir.
Justement, la signalétique fonctionne avec l'application Transport Paris 2024. Le but, c'est de proposer différents trajets vers un même site pour éviter de saturer les lignes, poursuit Xavier Guépet, porte-parole du réseau.
Tous les gens qui iront sur les sites olympiques auront un itinéraire dédié pour canaliser les flux. Et les franciliens qui ont leurs habitudes, eux, vont continuer à se déplacer selon leurs habitudes avec les modes de transport qu'ils connaissent.
L'installation des panneaux se poursuit jusqu'en juillet 2024 pour gérer les plus de 10 000 millions de visiteurs attendus sur la période des Jeux.
Et 16 lignes et 60 stations vont voir fleurir ces signes roses.
La France échappe aux mauvaises notes, Corinne.
Le gouvernement s'y était préparé après le dérapage du déficit public en 2023. Mais finalement, les redoutées agences de notation américaines Moody's et Fitch n'ont pas baissé la note souveraine de la France. Elles gardent donc son AA2 et son AA- avec perspective stable. C'est moins bien que les premiers de la classe, mais ça reste tout à fait honorable, explique Éric Dor, directeur des études économiques à l'IESEG School of Management.
Les meilleures dettes, celles des pays triple A comme l'Allemagne, elles sont rares, c'est d'ailleurs pour ça que ces pays ont un triple A. Et donc elles ne suffisent pas à satisfaire les appétits d'investissement de tous ces investisseurs internationaux qui achètent les grandes dettes publiques. Une fois qu'on a acheté de la dette allemande ou d'autres pays très bien notés, il faut trouver autre chose. Et juste après vient une dette comme celle de la France. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour la France parce que ça écarte le risque de voir augmenter le taux d'intérêt que les investisseurs internationaux exigent pour prêter à la France. Or, c'est vraiment la dernière des choses dont on a besoin maintenant, alors qu'il faut essayer de comprimer les dépenses publiques. Les intérêts de la dette, c'est quand même une partie importante de la dépense publique. Donc, c'est vraiment bienvenu. Ça va faciliter l'effort d'assainissement des finances publiques.
Éric Dor, interrogé par Agnès Soubiran. Le blocage est terminé à Sciences Po Paris. Les étudiants pro-palestiniens ont levé le camp hier soir après des annonces de la direction. Elle s'engage à organiser un débat interne, notamment sur les partenariats avec des universités israéliennes. Et elle suspend les procédures disciplinaires lancées contre plusieurs étudiants. De nouvelles mesures pour aider le monde agricole, c'est ce que s'apprête à annoncer Gabriel Attal. Le Premier ministre sera aujourd'hui dans la Manche, 2 mois après les engagements pris pour calmer la colère des paysans. Ces avancées concernent la trésorerie des agriculteurs. Lauriane Delanoë.
La principale annonce de Gabriel Attal aujourd'hui vise les agriculteurs les plus en difficulté, ceux que les banques classiques ne peuvent plus ou ne veulent plus accompagner. BPI France, la banque publique d'investissement, va prendre le relais avec une enveloppe de 100 millions d'euros en tout. Les exploitants pourront demander un prêt personnel jusqu'à 75 000 euros chacun. BPI France pourra aussi transformer une de leurs créances en prêt immédiat ou encore leur apporter une garantie pour un prêt dans une banque commerciale. Et pour les agriculteurs dans le rouge, en été à la suite d'un désastre sanitaire ou climatique, le Premier ministre acte une exonération partielle d'impôts, des dispositions pour soutenir la trésorerie et le revenu des agriculteurs pour leur redonner de la compétitivité. Avec ce dernier paquet de mesures, le gouvernement estime apporter une réponse globale aux préoccupations des agriculteurs et de leurs syndicats. Il espère ainsi tourner la page de la mobilisation de l'hiver.
Lauriane Delanoë, l'autoroute A13 va rester fermée la semaine prochaine entre Paris et Vaucresson. Pas de réouverture le 1er mai comme espéré. Des analyses sont toujours en cours sur une fissure importante apparue sur la chaussée. Et puis dans l'est de la France, le trafic ferroviaire reprend ce matin après une coupure électrique hier après-midi qui a fortement perturbé la circulation des trains. Les trains roulent à nouveau dans les deux sens entre Paris et Strasbourg sur la ligne à grande vitesse. Des retards sont cependant à prévoir jusqu'à 13h.
8h08, au Royaume-Uni, la loi ne décourage pas les candidats à l'exil.
Cette semaine, le Parlement britannique a adopté un texte controversé. Il prévoit la possibilité d'expulser vers le Rwanda des demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni. Et ça ne dissuade pas les exilés de tenter de traverser la Manche sur des bateaux de fortune. Reportage à Douvres sur la côte anglaise d'Emeline Vin.
Une cinquantaine de migrants débarquent d'un bateau de la police britannique, les vêtements trempés, certains pieds nus, sous les yeux de Carol Higginbottom, directrice adjointe du poste de commande aux petites embarcations.
On conduit de premiers tests à bord pour s'assurer que ceux qui sont blessés ou malades sont traités en premier. Ensuite, ici, on les amène dans une première tente, qui est la tente médicale, où tout le monde sera examiné par un ambulancier. Après, ils entreront dans le système administratif.
Les migrants sont partis du nord de la France à bord d'un bateau pneumatique d'une dizaine de mètres de long. Trevor Taylor, officier supérieur, connaît ce type d'embarcation.
À première vue, ça a l'air d'être un équipement solide, mais en réalité, ça ne l'est pas. Ce bateau n'est pas fabriqué suivant des normes industrielles. Il vient littéralement d'un garage, avec des matériaux inadaptés pour un navire.
Carol Higginbottom espère que le nouveau partenariat avec le Rwanda va mettre un terme à ces traversées.
Je ne peux pas commenter l'aspect politique, mais j'espère que cela aura un impact. Notre priorité, c'est de prévenir toute perte de vie et d'empêcher les groupes criminels de faire de gros profits en risquant des vies humaines.
Toujours dans un objectif de dissuasion, le gouvernement finance aussi des campagnes sur les réseaux sociaux dans les pays d'origine, notamment au Vietnam. Londres, Emeline Vin, RFI pour France Inter.
Et eux n'ont pas réussi à traverser. 54 personnes ont été secourues hier au large d'Ardelot-Plage dans le Pas-de-Calais. Le préfet maritime du Nord rappelle que ce secteur est particulièrement dangereux. Au Proche-Orient, pas d'avancée sur un espoir de trêve. Ce matin, le Hamas annonce qu'il étudie une contre-proposition israélienne. Une délégation égyptienne est arrivée hier à Jérusalem pour tenter de relancer les négociations à la fois sur une trêve à Gaza et sur la libération d'otages israéliens.
On termine en musique, Corinne, du côté de Bourges.
Au printemps du même nom qui se poursuit jusqu'à dimanche et qui a vibré hier soir au concert de Thomas de Pourquerie, le saxophoniste a quitté ses habits de jazzman pour ceux de crooner, une création lancée justement l'année dernière à Bourges. Mathieu Culeron.
À la basse, monsieur Sylvain Daniel, fait du bruit pour lui, s'il vous plaît.
Ils sont rares, les artistes qui sont à l'affiche du Printemps de Bourges deux années de suite. Thomas de Pourquerie fait partie de cette catégorie.
Ben oui, ça fait un an déjà, et depuis on a enregistré l'album. Et maintenant on vient présenter l'album au Palais d'Oron, c'est la fête, c'est merveilleux. Vive la musique, il faut fêter la musique chaque jour, chaque seconde, c'est tellement merveilleux. On a besoin de ça, quoi. Ça nous sauve la vie. Et nous, musiciens, on a cette chance d'être sauvés un peu plus chaque jour.
Crooner cosmique, Thomas de Pourquerie, héros du saxophone, vit sa vie de chanteur avec un enthousiasme communicatif. Et que dire de ce moment suspendu où il partage le micro avec Clara Isée, également présente lors de cette soirée au Palais d'Oron. Thomas qui ne cesse de glorifier l'amour et la musique dans son dernier album.
En fait, c'est ce que m'apprend la musique. La musique en elle-même est un acte d'amour. La musique est un acte qui nous connecte au présent. Le seul instant éternel, le seul moment d'éternité connu. La musique, la vie et les étoiles. Je crois qu'on est là que pour ça, et de constater ça, c'est assez extatique. Je crois qu'on devrait se concentrer un peu plus là-dessus.
Thomas de Pourquerie qui a fait chavirer Bourges avec sa générosité et son talent. Artiste total, son concert hier soir restera comme l'un des grands moments du Printemps de Bourges.
Et pour ceux qui n'y étaient pas, Thomas de Pourquerie sera en concert le 30 avril à Strasbourg, le 4 mai à Lille et le 23 à Nantes.
8h12 sur Inter, le journal des sports.
Avec Nicolas Perronnet ce matin, bonjour.
Bonjour Corinne.
Un grand chelem en jeu pour les Françaises en rugby.
À 6 ans que ce n'est plus arrivé, hein, les Bleus privés de grand chelem à chaque fois par leurs adversaires du jour, les Anglaises dans le tournoi des Six Nations féminin. Alors deux raisons d'y croire cet après-midi pour ce dernier match. Hein, d'abord le stade Chaban-Delmas à Bordeaux, copieusement garni, 26 000 spectateurs attendus, c'est un record. Et puis la détermination des Françaises à l'image de la centre Marine Ménager, écoutez, impatiente de changer le cours de l'histoire.
Je pense que c'est hyper challengeant. Quand on joue au plus haut niveau, on a envie de rencontrer les meilleurs athlètes à nos postes. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir rencontrer des filles qui font partie, voire qui sont les meilleures à leur poste. Maintenant, à nous de montrer qu'on peut être encore au-dessus et d'aller les chercher et de montrer qu'on n'a pas peur, nous. Il n'y a pas de souci, vous avez fait un super tournoi, félicitations, mais on est là et on va venir vous chercher.
À 17h45, hein, Corinne, pour ce nouveau crunch qui promet le coup d'envoi de ce France-Angleterre.
Et en football, les Canaries se rapprochent du maintien.
Oui, à petit pas, un petit point. Hier soir, celui du match nul, un but partout, décroché à Montpellier en ouverture du week-end de Ligue 1. Une 31e journée marquée par le sacre possible, probable, du Paris Saint-Germain ce soir. Un 12e titre de champion qui tend les bras aux Parisiens en cas de victoire au Parc des Princes face au Havre. Le tout à 4 jours maintenant de la demi-finale aller de Ligue des Champions évidemment à Dortmund.
Et ça commence à sentir la fin, le compte à rebours enclenché pour Rafael Nadal.
Il n'y a plus que deux tournois avant de s'attaquer à l'objectif de sa fin de carrière, un 15e titre à Roland-Garros. Il affronte Alex de Minaur cet après-midi au deuxième tour du tournoi de Madrid. L'Australien Alex de Minaur qui avait justement éliminé l'Espagnol d'un autre tournoi, celui de Barcelone la semaine dernière. Fabrice Abgral, c'est un nouveau test grandeur nature à 37 ans pour Rafael Nadal.
Ce que recherche Rafael Nadal avant tout, c'est jouer, disputer des matchs pour retrouver le rythme de la compétition. Parce que pour lui, le plus important, c'est d'être prêt dans un mois.
Mon objectif final est de me donner une chance d'être compétitif à Roland-Garros, mais aujourd'hui, je n'en suis pas capable. J'espère être prêt dans quelques semaines et je vais tout faire pour, vraiment.
Rafael Nadal avoue joue aisément. Désormais qu'à 37 ans, il n'a plus le physique pour continuer. Il va arrêter cette année, mais quand ? Tout dépendra de son corps. C'est ce que dit Gilles Simon, l'ex numéro 6 mondial.
Quand ça bascule, c'est d'un coup, c'est net. On sait que le moment où ça va s'arrêter, ça va faire boum, fini. Et c'est pas lui qui décidera s'il peut faire un des Jeux Olympiques ou machin. Il va essayer, bien sûr. Il va s'entraîner. Par contre, faut quand même pouvoir aller un moment physiquement, jouer, courir. Et si tu peux pas le faire, et ben, c'est l'arrêt de carrière. Et c'est comme ça.
Mais ça, Gaël, mon fils, ne veut pas y penser.
On a envie de le revoir briller. On a envie de le revoir guerrier comme il a toujours été. Donc, je reste patient.
La plus belle fin pour Raphaël Nadal, ce serait laquelle ? Ce serait Roland-Garros, les Jeux Olympiques ou ailleurs ?
La plus belle fin pour lui, ce sera quand lui l'aura décidé.
Et ce sera peut-être à Berlin, où Nadal disputera la Lever Cup du 20 au 22 septembre prochain. C'est peut-être là, en effet, dans cette exhibition par équipe, qu'il terminera sa carrière, comme l'a fait Federer en 2022.
Et un Français également, sur le court aujourd'hui à Madrid, Adrian Manarino, opposé au Canadien Félix Auger-Aliassime.
Merci Nicolas Perronnet pour ce journal des sports.
Dans le journal de Corinne Audouin, il est 8h15 sur France Inter.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Véhicules électriques, hybrides ou thermiques, Euromaster garantit votre mobilité et préserve votre budget.
Céline Dacosta, le ciel est orageux sur l'ouest du pays.
Oui, avec les premiers orages sur le Poitou-Charentes. Non, c'est Corinne Audouin qui me chatouille en passant. Voilà, vous savez tout. Les premiers orages sur le Poitou-Charentes ce matin, des averses parfois soutenues présentes également des Pays de la Loire vers l'Île-de-France. Averses qu'on retrouve également sur les Cévennes, là, déjà ce matin. Ciel bien nuageux pour le reste du pays, sauf sur le flanc est où on aura encore quelques éclaircies entre l'Alsace et la région PACA. Là où il va faire le plus beau, c'est dans le nord-est aujourd'hui. Le vent soutenu va s'intensifier dans l'après-midi, surtout sous les orages. Plus nombreux et potentiellement plus violents avec des chutes de grêle. Orages attendus principalement sur le sud-ouest où 8 départements sont en vigilance orange, de la Charente au Gers.
Le tout sous des températures un peu plus clémentes.
Oui, il fait encore un petit peu frais par endroits ce matin sur la moitié nord, 4 à Brest, 7 à Nantes ou 8 à Lille. Ça remonte cet après-midi avec une moyenne du nord au sud qui sera enfin à nouveau dans les normales de saison. 13 à Cherbourg pour la plus basse, 23 à Ajaccio pour la plus élevée, en passant par 17 degrés à Paris et à Bordeaux.
Merci Céline Dacosta, merci d'écouter Inter, il est 8h17.
Le 6-9. Listen anywhere. Huawei sur France Inter.
Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Gallagher, alors que la mobilisation pro-palestinienne se poursuit à Sciences Po Paris, de l'autre côté de l'Atlantique, le mouvement étudiant continue lui aussi et il prend de l'ampleur et une tournure très politique.
Columbia, NYU, MIT, Harvard, Yale et Berkeley, ça ce sont les plus prestigieuses, mais aussi l'université du Minnesota, celle du Nouveau-Mexique, ou encore Emerson College à Boston. La liste des facultés américaines où fleurissent des mobilisations pro-palestiniennes est désormais trop longue pour que je puisse être exhaustif. De la côte Est au Pacifique, en passant par le Midwest, sur chacun de ces campus, les scènes sont quasi identiques. Des tentes, des drapeaux, des étudiants de divers horizons et un même slogan entonné par la foule, ici à l'Université du Texas, à Austin.
Et comment expliquer cette mobilisation soudaine, Gallagher ? Y a-t-il un facteur en particulier qui l'a déclenché ?
Tout est parti de Columbia University à New York, Mathilde. Elle appartient au club très fermé et prisé des universités dites de la Ivy League. Fréquenter un des 8 établissements privés du nord-est des États-Unis qui la constituent, c'est faire partie de l'élite. Harvard, Yale et Princeton sont parmi les plus connus. Pendant des mois, une poignée des quelques 37 000 étudiants de Columbia University ont préparé leur mobilisation. Stratégie de communication, consentement à l'arrestation et organisation de la logistique, comme l'achat de tentes en vrac. Leur principale demande, que leur université mette fin à tout investissement lié à Israël ou au secteur militaire. Ils veulent aussi que Columbia fasse toute la transparence sur la manière dont elle investit sa dotation financière qui représente 13 milliards de dollars. La date et l'heure du début du mouvement ont été choisies pour coïncider avec l'audition de la présidente de Columbia devant le Congrès. Il y a 10 jours, pendant qu'elle répondait aux questions de parlementaires enquêtant sur des soupçons d'antisémitisme dans le milieu universitaire, les militants ont monté leur camp. Ils se sont installés sur la pelouse en plein cœur de l'université, au pied des bâtiments à l'architecture classique qui abrite, entre autres, l'école de journalisme. De quoi attirer l'attention d'un maximum de médias.
Et cette stratégie s'est avérée payante, Gallagher ?
En réalité, Alice, ce sont les images suivantes qui ont défrayé la chronique. Pas celle du camp, mais celle de l'arrestation de dizaines de militants. Déployée à la demande de la présidente de Columbia, la police ne les a pas ménagés. Cette répression a réveillé le souvenir des grandes mobilisations étudiantes des années 60 contre la guerre au Vietnam, de quoi inspirer de nombreux autres jeunes à travers le pays.
On imagine que les politiques ne peuvent plus éviter le sujet, Gallagher.
Absolument, Marion. Au début de cette chronique, je vous ai fait entendre des étudiants de l'Université du Texas à Austin. Le gouverneur là-bas a déclaré que la place de ces manifestants est en prison. Dans la même veine, écoutez les propos du président de la Chambre des représentants, le trumpiste Mike Johnson. Il s'est rendu à Columbia. Columbia a permis à ces radicaux, ces agitateurs sans foi ni loi, de prendre le contrôle de l'université. Le virus de l'antisémitisme se répand. Près de 200 facs sont le théâtre de manifestations similaires. En pleine campagne pour la présidentielle, les Républicains savent que leur électorat n'est pas là. C'est une toute autre affaire pour Joe Biden. Il compte beaucoup sur cette jeunesse, mais aussi sur une partie du vote juif, choquée par ces mobilisations pro-palestiniennes. La situation humanitaire à Gaza continue de rattraper la campagne du président sortant, qui préférerait largement se concentrer sur son bilan économique.
Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique à suivre sur Inter, le grand entretien avec Laurence Descartes.
Samedi 19h15, Charline Vanhoenacker.
Et ce week-end, à l'apéro, on a parlé du MeToo masculin avec Bully la Nurse.
Une femme qui parle, elle sera soutenue par les autres femmes. Un homme qui parle de ça ne sera pas soutenu par les autres hommes.
Bistroscopie.
Tous les samedis sur France Inter, après le journal de 19h.
France Inter, partenaire de Un soir avec les impressionnistes, Paris 1874 au musée d'Orsay. Une expérience immersive inédite pour revivre l'inauguration, ce soir du 15 avril 1874, de la toute première exposition impressionniste. Laissez-vous transporter aux côtés de Monet, Renoir, Morisot, Cézanne pour une expédition en réalité virtuelle riche en sensations. Un soir avec les impressionnistes, Paris 1874, au musée d'Orsay jusqu'au 11 août. Un événement France Inter.
Il est 8h22.
France Inter. Ali Badou, Marion Lourd, le 6-9.
Et dans le grand entretien de France Inter, ce matin, notre invité justement est passé du musée d'Orsay au musée Monde, au plus grand musée du monde, le Louvre. Et il va y avoir du sport et de l'art ce matin sur Inter, au moment où la flamme olympique est en route vers la France. Il y a partout, vous le savez, à Paris, des institutions qui se préparent à participer aux Jeux Olympiques. Et même là où on ne l'attend pas, le sport par exemple, qui s'invite au sein du Louvre, avec l'inauguration d'une exposition consacrée à l'olympisme, une invention moderne, un héritage antique, on va en parler, et le musée qui accueillera également des visites sportives avec Mehdi Kerkouche dans les salles du musée. Ça a commencé cette semaine. Bonjour Laurence Descartes.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. C'est assez surprenant malgré tout de voir dans un espace comme celui du Louvre une participation aux Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir vous investir l'institution dans cette plus grande compétition sportive au monde?
L'évidence, tout simplement, le Louvre est au cœur de Paris, qui vont accueillir les Jeux Olympiques. On accueillera la flamme le 14 juillet. La cérémonie d'ouverture passera sous les fenêtres du Louvre. Vous le savez, trois stades sont installés place de la Concorde. Et les Tuileries qui dépendent du Louvre vont évidemment servir aussi à ces stades. Et puis tout simplement, on s'est plongé dans l'histoire du Louvre. Et on a compris, les trois commissaires de l'exposition consacrée à l'olympisme, oui, m'ont proposé il y a 2 ans cette histoire très originale qui est au fond remontée à la source de l'olympisme moderne, et donc remonter aux sources des collections du Louvre, puisque autour de Pierre de Coubertin, on s'est posé la question de la réinvention, au fond, moderne des Jeux Olympiques.
Parce que c'est une invention moderne, même si elle s'inspire de l'antique, on va en parler dans un instant, vous allez nous guider dans cette exposition. Malgré tout, quoi de commun, Laurence Descartes, entre le sport et les arts? Un musée, c'est un lieu où on se déplace en général lentement, où l'on chuchote, à part les élèves en visite scolaire qui se font rappeler à l'ordre. C'est un anti-stade, c'est un lieu normalement où il faut le silence et le calme. Le musée,
Le sport, c'est autre chose.
Le sport, c'est autre chose. Alors, ce que propose Mehdi Kerkouche, c'est aussi autre chose. Ce sont des visites sportives, mais aussi accompagnées par des coachs et des chorégraphes. Mehdi Kerkouche est un grand chorégraphe.
Immense chorégraphe.
Oui, immense chorégraphe, et qui a le sens du public. Et qui, qu'on est allé voir justement parce que, à partir des collections du Louvre et aussi de l'ambiance de certaines salles du Louvre, il a imaginé des chorégraphies qui permettaient de se saisir aussi d'une question très importante dans un musée et qui rejoint le sport, qui est la question du corps, tout simplement.
La question du corps, et d'ailleurs j'invite nos auditeurs à partager leur passion pour l'art et pour le sport en vous appelant Laurence Descartes au 01 45 24 7000 ou en écrivant sur l'application de France Inter.
Et Ali le disait, il y a à première vue pas de lien évident entre l'olympisme et le Louvre, entre le sport et le musée. Et pourtant, il y a donc cette exposition, l'olympisme, une invention moderne, un héritage antique, où vous présentez de nombreuses pièces qui parfois d'ailleurs ne sont pas venues en France, comme une coupe, une récompense,
oui, bien sûr,
qui est là pour la première fois, la coupe Bréal. Oui. Et justement, ce lien entre les deux, entre le Louvre et l'olympisme, il se fait par le biais de deux hommes, Émile Gilieron et Michel Bréal. Alors expliquez-nous, qui sont ces deux hommes qui sont au cœur de l'expo?
En fait, c'est rappeler peut-être à nos auditeurs que...
C'est 1896.
Nous sommes un petit peu au début des années 1890, et Pierre de Coubertin, donc, qui se pose la question de la réinvention moderne des Jeux, n'est pas seul, en fait. Il est entouré, notamment, d'Émile Gilieron, de Michel Bréal.
D'ailleurs, il aurait été seul, peut-être que ça n'aurait pas eu lieu.
Tout à fait, absolument. Ils ont été fondamentaux, et il y a tout un lien, et il faut le saluer, le lien entre Paris et Athènes à ce moment-là, entre... des chercheurs, des passionnés d'histoire grecque, d'art grec, c'est aussi une des grandes passions de la fin du 19e siècle, et qui se mettent à rêver de la réinvention moderne des Jeux. Alors, évidemment, on est loin des Jeux antiques, puisque les Jeux antiques, c'était des cérémonies religieuses. Donc là, on bascule évidemment dans autre chose à la fin du 19e siècle. Mais ce qui est très amusant, c'est de voir tous ces professeurs d'histoire, ces philologues, professeurs à la Sorbonne, vieux monsieur barbu, pas follement a priori sportif quand on voit leur silhouette.
On voit un tableau.
Oui, Michel Bréal penché sur son grimoire, entouré de livres. Inventeur du marathon. Et c'est cet homme qui invente le marathon moderne. Évidemment, l'épreuve, je le rappelle, n'existe pas dans la Grèce antique, puisque la bataille de Marathon, c'est autre chose, mais se base sur le récit d'Hérodote et de Thucydide pour imaginer cette course d'un peu plus de 40 km. Et d'ailleurs, les premiers essais ont été catastrophiques, il faut le dire. Il y a eu un mort, il y a eu une crise cardiaque, parce que tout simplement, Michel Bréal avait un peu perdu, je pense, le climat grec à l'esprit et la topographie aussi. Et donc, il y a eu un pauvre coureur qui a eu du mal qui n'est pas arrivé à tenir la longueur du marathon.
C'est une exposition où l'on découvre, par exemple, d'où viennent les anneaux olympiques. Est-ce que vous pouvez nous
absolument
le raconter? Parce
que c'est vrai que dès l'entrée de l'exposition, ces anneaux que nous avons tous en tête, ils viennent tout simplement de ces récompenses qui étaient ces couronnes de laurier que l'on posait sur la tête des vainqueurs des épreuves. Et c'est bien ce cercle-là qui a été retrouvé dans l'invention moderne du drapeau olympique, et ça, l'exposition le montre et l'explique très bien.
Et il y a donc, on crée une espèce de marketing des JO, une imagerie en quelque
totalement
sorte.
Totalement. On invente l'iconographie, l'image moderne, l'imagerie moderne des Jeux olympiques. Elle est inventée à partir de 1896. Des timbres, des affiches, des trophées.
Et une archéologie du geste, c'est-à-dire qu'on va chercher dans la statuaire antique. Comment les sportifs vont se comporter?
Absolument. C'est là que le lien avec les collections du Louvre est extrêmement direct, parce que tous ces connaisseurs de la Grèce antique regardent les vases grecs, les sculptures, et on décompose le geste, et on est à l'époque de la chronophotographie. Pensez à Jules Marais, notamment Jules-Étienne Marais, et on montre quelques images de Marais dans l'exposition, et on essaye de retrouver le pose du lancer de disque, du lancer de javelot.
Qui n'étaient pas les plus efficaces, en vrai.
Et c'est pas les plus efficaces, parce qu'on s'aperçoit quelquefois que les poses, en fait, on tient pas la pose. Donc on corrige, on ne sait pas comment commencer une course. Il y a une photo très amusante où on voit que les coureurs ne savent pas comment se positionner sur la piste. Et c'est le coureur américain qui est le plus proche du point de départ actuel de la course olympique. Donc on tâtonne littéralement.
Et il y a une forme d'archéologie du geste donc, dont absolument vous racontez l'histoire. Et ça, c'est absolument passionnant. Il y a véritablement l'invention d'une tradition. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les Jeux olympiques, c'est
continue depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, mais c'est aussi une histoire de récit politique. Vous insistez sur la date 1936, ces Jeux à Berlin, pourquoi ?
Oui, parce que, alors on s'arrête en fait, on s'arrête en 1924 aux Jeux de Paris et on ne fait qu'esquisser, parce qu'il y a l'histoire des Jeux au XXe siècle, c'est un sujet en soi. Mais oui, très très vite, il y a, vous le savez, une récupération politique des Jeux Olympiques, avec évidemment les Jeux de Berlin qui sont restés dans l'histoire pour évidemment un premier face-à-face, j'allais dire, dans les conditions que l'on connaît. Et oui, oui, on aborde cette face plus sombre des Jeux Olympiques, on aborde aussi la place des femmes, voilà, qui n'étaient pas, qui ne faisaient pas partie de l'histoire au départ, et qui n'en faisaient pas vraiment partie non plus dans l'Antiquité. Elles avaient leur jeu à part, c'était Héra qui était célébrée, évidemment. Et ça, je pense que c'est important. On essaye de montrer que ça n'est pas un récit parfait. Voilà, loin de là. Dès le départ, il y a évidemment des failles, et des failles qui se révéleront au cours, évidemment, du XXe siècle.
Vous montrez même que Pierre de Coubertin, en excluant d'emblée les femmes de l'olympisme, oui, s'est trompé, il n'a pas respecté l'esprit antique. Il y avait des femmes qui...
Il y avait des femmes, il y avait des jeux différents, des jeux de hommes, mais il y avait des jeux féminins. Ouais, absolument, elle faisait du sport. Et on montre d'ailleurs deux petites sculptures qui montrent des petites coureuses antiques avec une ravissante tenue, voilà, mais qui est une petite jupette qui permettait de courir. Mais c'est quand même c'est quand même fascinant de voir que les femmes pratiquaient le sport dans l'Antiquité.
Il y a quelque chose de drôle, c'est que dans le catalogue de l'exposition, on trouve la Vénus de Milo. Alors, je ne sais pas ce que la Vénus de Milo vient faire au milieu de...
Oui, alors elle est moins sportive, la Vénus de Milo. Elle est moins sportive. Mais ouais, la Vénus de Milo, elle est très importante dans l'imaginaire collectif et dans ce lien entre la Grèce et la France au XIXe siècle.
On va parler évidemment du Louvre, Musée Monde. Vous avez dirigé le Louvre à Abu Dhabi. Vous êtes quelqu'un qui a énormément apporté de modernité dans ces musées, dans ces espaces quasi sacrés. Vous êtes là et on ne peut pas, puisque vous êtes la gardienne du chef-d'œuvre le plus célèbre au monde, ne pas vous interroger sur la Joconde. La Joconde qui revient dans l'actualité. La Joconde qui, encore une fois, c'est l'éternel retour de la même question, encore une fois, mérite-t-elle d'avoir une salle à elle, Laurence Descartes ?
Alors, en ce qui me concerne, c'est oui. Et oui, je pense que c'est oui pour beaucoup de gens. Et nous y réfléchissons. Et la presse en est fait l'écho ces derniers jours. Je crois que oui, il faut poser la question de la présentation de la Joconde. Nous n'accueillons pas bien aujourd'hui, en tout cas pas dans des conditions optimum, les visiteurs qui veulent voir la Joconde. Mais c'est la moins pire des solutions pour l'instant, dans l'état actuel.
Combien de visiteurs par an pour aller voir la Joconde ? C'est fascinant.
Alors, c'est fascinant parce que c'est 80% des visiteurs du Louvre. Alors si vous êtes dans les chiffres de l'année dernière, c'est 80% de pratiquement 9 millions de visiteurs. Donc vous voyez que c'est plus de 20 000 visiteurs qui voient tous les jours la Joconde. En fait.
Mais alors pourquoi ? Enfin, ils voient surtout une forêt de selfies et de téléphones. Oui. Portable. Mais pourquoi est-ce qu'on se dit que c'est une expérience déceptive ? C'est paradoxal.
Ça faut le demander aux visiteurs, mais c'est une question intéressante. Alors après, c'est une icône, et par définition, quand vous êtes face à une sorte de fantasme collectif, il peut y avoir toujours un effet déceptif. Donc ça, je ne rentrerai pas dans la psychologie du fantasme. Mais en revanche, je crois vraiment qu'il faut réfléchir aux conditions de présentation de la Joconde, à l'accueil en général des visiteurs au Louvre. Nous sommes un musée extrêmement visité et nous nous en réjouissons. C'est un musée mondial.
C'est le premier musée au monde.
C'est de très loin le premier musée visité au monde. Et c'est une chance pour la France et pour Paris. Mais je souhaite, et je le place au cœur de ma mission de présidente directrice, mieux accueillir le public. Parce que nous avons une mission, c'est de transmettre ces œuvres merveilleuses, d'en raconter l'histoire. Par exemple, ce lien avec les Jeux Olympiques, très inattendu,
ouais,
mais réel, évidemment. Il y a des centaines de récits différents au Louvre à raconter aux visiteurs pour de toutes les générations, quelles que soient les origines sociales. Nous sommes un musée ouvert une fois de plus sur le monde. Et c'est toujours frustrant quand on n'est pas tout à fait à la hauteur des conditions d'accueil. Et c'est un peu le cas pour, évidemment, la Joconde. Donc, nous réfléchissons, en lien avec le ministère de la Culture, à cette amélioration qui me paraît nécessaire aujourd'hui.
La Joconde, elle est vraiment au cœur de l'actualité, Laurence Descartes, parce que cette semaine, il y a une association qui dit représenter des descendants de Léonard de Vinci, qui a saisi le Conseil d'État pour demander que le tableau soit restitué à l'Italie. Alors, c'est pas vraiment une première, hein, ça revient assez régulièrement. Mais comment vous la recevez, cette demande ? C'est légitime, vraiment ?
Alors, le Conseil d'État est souverain dans sa décision, donc nous attendons la décision du Conseil d'État, mais nous l'attendons avec sérénité, parce que je rappelle un tout petit peu pour nos auditeurs l'histoire de la Joconde, l'arrivée de Léonard de Vinci, donc, qui vient auprès de François Ier, hein, et François Ier qui achète l'étoile que Léonard avait amenée en France, et qui en prend définitivement possession pour la France, pour les collections royales, donc pour la France, en 1519, à la mort de Léonard de Vinci.
Mais il lui a offert la Joconde.
Non. Il y a eu un achat. Il y a eu une vraie transaction pour l'ensemble des tableaux de Léonard qui étaient avec lui en France. Et donc le tableau entre dans les collections royales. Et au moment de la Révolution, vous le savez, les collections royales deviennent propriété de la nation et de l'ensemble des citoyens français. Le tableau arrive en 1797 au Louvre, qui est musée depuis 1793, il arrive de Versailles.
Sous la Révolution, c'est l'invention du musée.
C'est l'invention du musée, et il est présenté dans la Grande Galerie à partir de 1801. Alors, il aura des points de présentation différents au fil du temps, et son absolue célébrité contemporaine, en fait, tient à son vol en 1911, à partir de, vous savez qu'un Italien, Vincenzo Perugia, qui était un peu déséquilibré, l'avait volé, et je tiens à le rappeler aussi, lorsque le tableau est retrouvé en décembre 1913, l'Italie, l'État italien, rend le tableau à la France. C'est bien la preuve qu'il n'y a aucune contestation de propriété.
Vous dites que vous n'êtes pas inquiète, mais le Louvre sans la Joconde, ça serait quoi ?
Ah bah, il y a 1000 autres Jocondes, mais on est évidemment extrêmement fiers de pouvoir présenter. C'est un très grand chef-d'œuvre, il faut le rappeler, parce qu'on finit par l'oublier. Et le Louvre a l'immense chance de présenter dans ses collections 5 tableaux de Léonard de Vinci. C'est unique au monde.
Oui,
c'est la plus belle collection.
Il en a peint 13.
Voilà, donc c'est quand même c'est un trésor pour la France et c'est un trésor universel. Et donc, nous sommes sereins face à la décision et nous nous en remettons au Conseil d'État.
Voilà. Et vous êtes la gardienne donc de ce chef-d'œuvre. D'ailleurs, quelle est votre œuvre préférée au Louvre ?
Non, c'est une question impossible. Je ne pouvais déjà pas répondre. Non, parce que je me fâche après avec la moitié des départements du Louvre. Et non. Mais vous savez, on peut avoir des œuvres à différents moments de la journée. Moi, j'aime bien penser que voilà, on peut changer d'humeur et changer de siècle. Changer de style, d'expression, c'est ça la beauté du Louvre.
Malgré tout, vous, c'est le 19e siècle sur lequel vous avez le plus travaillé.
Et
vous avez quitté donc le musée d'Orsay pour aller au musée du Louvre. Il y a encore beaucoup de questions d'auditeurs sur la question de l'athlétisme et de l'olympisme. Il faut combien de temps pour visiter le Louvre ? Juste d'un mot, parce que là, pour le coup, ça pourrait être une épreuve olympique digne du marathon.
Alors, le temps moyen de visite du Louvre est pratiquement de 2h45, ce qui est très long. Hein.
Et sans tout voir.
Voilà, sans tout voir. Alors, si vous voulez tout voir, c'est effectivement sans doute
plusieurs
jours.
Si on veut tout voir.
Non, ce serait plusieurs jours, et c'est surtout plusieurs visites. Et je me permets de signaler à vos auditeurs que nous réinstaurons une seconde ouverture tardive à partir du 29 mai, parce que je crois beaucoup à ces ouvertures qui permettent de fréquenter le musée à des pics un peu moins importants d'affluence.
Oui.
Il y a une ambiance différente dans ces ouvertures tardives.
Ah bah c'est magique.
Plus calme, plus... Voilà, c'est des vraies rencontres avec les œuvres. Donc, à partir du 29 mai, mercredi et vendredi, venez en début de soirée au Louvre. Vous y serez merveilleusement accueillis.
On parlait de la magie. Je suis désolée de revenir aux choses plus terre à terre, mais vous êtes aussi patronne.
Oui.
Vous êtes aussi patronne d'un musée, le Louvre, qui vient de voir son budget raboté de 3 millions d'euros dans le cadre des économies recherchées par le gouvernement. Comment est-ce que vous pouvez faire face ? Il faut renoncer à certaines activités, il faut diminuer les effectifs, les horaires, a priori ça n'est pas dans vos projets, les horaires ?
Non, l'idée, nous y travaillons bien sûr, et c'est tout à fait normal que le Louvre participe de cet effort budgétaire, c'est un établissement public, c'est absolument normal, il n'y a pas de problème avec ça. C'est à nous de travailler et de répartir l'effort le plus intelligemment possible pour que jamais l'offre culturelle, l'accueil du public ne soit dégradé. Donc voilà, nous sommes en train de travailler sur ces questions pour rationaliser, mutualiser et faire en sorte que cette coupe soit la plus douce possible et surtout qu'elle ne se sente pas pour le public.
On va
pour l'instant, pas de piste concrète pour le moment. Si
il y en a, mais je ne veux pas vous embêter.
Sur la question du billet d'entrée quand même, parce qu'il avait augmenté de 30% en janvier, ça a fait un peu parler à 22 euros. Est-ce qu'il pourrait devenir encore plus cher ?
Non, ça n'est absolument pas sur la table. J'ai pris en responsabilité la décision de cette augmentation, qui était proportionnellement importante, effectivement, parce que je ne souhaitais pas peser sur les finances publiques et les contribuables français. C'est, vous savez, ouvrir le Louvre tous les jours, masse salariale comprise, c'est 630 000 euros hein, pour ouvrir les portes. Donc, c'est un budget de fonctionnement conséquent. Nous sommes touchés par l'inflation, bien entendu, bien très fortement. Et voilà, c'était une décision en responsabilité. Je rappelle que 60% des Français qui viennent au Louvre rentrent gratuitement, plus de 50% de nos visiteurs globalement. Le Louvre est gratuit pour les moins de 26 ans, non seulement les Français, mais pour tous les ressortissants européens de moins de 26 ans. Donc on peut venir en famille à un prix très raisonnable au Louvre.
Et puis il suffit que Beyoncé revienne au Louvre pour tourner un clip et s'y
elle
installer.
Elle est la bienvenue quand elle veut.
Elle est la bienvenue et vous réglerez vos problèmes de trésorerie. Bonjour Michel.
Oui, bonjour.
Bienvenue sur Inter.
Bonjour madame.
Merci. Eh bien écoutez, voilà, je grogne, voilà, contre tous les gens qui viennent visiter un musée et qui passent leur temps à se photographier devant. Ce qui fait que lorsqu'on veut aller voir une œuvre intéressante, on est obligé de se frayer un chemin à travers une forêt de téléphones portables.
C'est une expérience, oui, que beaucoup, beaucoup ont fait, et pas seulement au Louvre, Laurence Descartes.
Oui, bien sûr, non, je comprends très bien. Bonjour madame, merci pour votre remarque, elle est très juste, mais alors c'est l'époque, et voilà, les téléphones portables sont évidemment totalement...
Pas question de les interdire.
Pas question d'interdire la photographie, ce serait évidemment aller contre son temps. Je crois que c'est une façon de s'approprier les collections, il faut le voir de façon positive, c'est une façon d'emporter quelque chose avec soi, et de l'avoir matériellement dans son propre téléphone. Alors oui, mais venez madame, venez en fin de journée, c'est plus calme, avec des gens qui se peut-être prennent un peu moins de selfies et vous serez la bienvenue pour redécouvrir les collections du Louvre.
On vous connaît Laurence Descartes parce que vous avez beaucoup travaillé à démocratiser l'accès à l'art à Orsay, au Louvre maintenant. Quand vous voyez par exemple des grands amateurs d'art par le passé, comme Jean Clair, dire que c'est une erreur d'avoir ouvert l'accès aux chefs-d'œuvre, au surtourisme et au trop grand nombre de personnes qui viennent les voir, qu'est-ce que vous en pensez ? Il faudrait.
Non, je crois qu'il faut se poser la question dans le bon sens. Le problème n'est pas d'accueillir 9 millions de visiteurs au Louvre ou 10 millions de visiteurs au Louvre, c'est de mal les accueillir. Et c'est à nous de trouver les solutions pour que le public soit le mieux accueilli possible. Nous y travaillons en ce moment. C'est un des... Là encore, je mets le public...
Il y a beaucoup de questions là-dessus, sur l'application.
Bien sûr, mais je comprends. Et la question du surtourisme est une question. Vous savez que j'ai instauré une jauge de 30 000 visiteurs par jour maximum au Louvre pour précisément garantir un accès de qualité, une visite si possible de qualité au Louvre, pour préserver le bâtiment. Alors là, je rejoins effectivement cette remarque. C'est un bâtiment patrimonial exceptionnel, le Louvre, avec une architecture, des décors merveilleux que nous resterons, bientôt dévoiler l'arc du carrousel restauré, les appartements d'été d'Anne d'Autriche, les appartements de Napoléon III, tout ça réouvre pour les JO, mais donc il faut le préserver aussi, et donc il faut trouver le bon équilibre, si vous voulez, entre répondre à cette demande et cette envie du Louvre, et puis préserver ce patrimoine, le transmettre avec une vraie réflexion sur l'adaptation climatique aussi de tous ces bâtiments, auxquels on va beaucoup travailler dans les années qui viennent. La résilience climatique, c'est aussi pour les monuments historiques et c'est aussi pour le Louvre.
Londres avait fait l'expérience au moment des Jeux Olympiques. On pensait que beaucoup viendraient voir les compétitions sportives et iraient au musée. Et finalement, ça ne s'est pas produit. Vous ne redoutez pas ?
Ça s'est produit avec un effet décalé. C'est-à-dire peu de monde, effectivement, pendant les compétitions, mais énormément de monde dans l'automne qui a suivi. Nous ouvrons la billetterie pour cet été, donc juillet-août et début septembre, mi-mai. Je rappelle que la visite cet été au Louvre, le Louvre sera ouvert pendant les Jeux Olympiques, donc ça c'est première information, et que donc il faudra absolument passer par la pré-réservation. Il n'y aura pas d'entrée directe, tout simplement pour garantir là aussi des bonnes conditions d'accueil dans les conditions, vous le savez, un peu particulières de sécurité qui vont entourer les Jeux Olympiques à Paris.
Vive le Louvre ! Merci infiniment à Laurence Descartes d'avoir été l'invité de France Inter et pour, je rappelle donc cette exposition qui est consacrée à l'olympisme et puis cette possibilité de danser, de courir, de faire ce qu'on n'a pas trop le droit de faire en général dans les musées. C'est donc sur Internet qu'on peut s'y inscrire assez facilement. Et puis, j'indique que dans le grand face-à-face tout à l'heure à midi, Thomas Negaroff, lui aussi, reviendra sur les racines du sport et de l'olympisme. Excellente journée, Laurence Descartes. Merci.
Ce samedi. midi sur Inter, la radio de...
Alors moi, évidemment, vous m'avez entendu peut-être faire des sketchs sur France Inter depuis quelques années. C'est Thomas VDB qui vous parle et c'est ma radio.
Pendant une heure, les artistes partagent la playlist de leur vie.
Ben c'est moi qui gère la programmation. Je vais pouvoir mettre tous les morceaux que je veux, les albums qui me mettent des tartes dans la tête aussi.
La radio de...
La radio de Thomas VDB.
C'est ce samedi sur Inter à partir de 21h.
Et j'espère que vous allez m'envoyer plein de mails en me disant hey, « T'as vraiment des goûts géniaux, Thomas VDB. »
8h43.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Céline Dacosta, les températures remontent enfin.
Oui, c'est la fin de cette séquence fraîche et assez inhabituelle au printemps qui aura quand même duré 11 jours. On va revenir cet après-midi à des valeurs de saison avec une moyenne de 13 à 23 degrés du nord au sud. Ce matin, c'est encore un petit peu frais par endroit, surtout sur la moitié nord. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a plus de gelée.
Et l'ambiance est électrique aujourd'hui côté ciel.
C'est surtout dans le sud-ouest où 8 départements sont en vigilance orange pour des orages fort attendus, surtout cet après-midi. Sous ces orages, des rafales de vent jusqu'à 100 km à l'heure et des chutes de grêle. Orages qui vont remonter jusqu'en Île-de-France et Normandie, ça sera dans la soirée, mais elles vont perdre, enfin, ces orages vont perdre en intensité. En attendant, le ciel sera bien couvert sur les trois quarts du pays avec des averses parfois déjà orageuses ce matin. Entre le Poitou et les Pays de la Loire, il reste quand même des éclaircies. Sur le flanc est surtout, où elles sont plus nombreuses, de l'Alsace à la région PACA.
Merci Céline Dacosta et merci à vous d'écouter Inter, il est 9h moins le quart.
France Inter, Marion Lourd, Ali Badou, le 6-9.
Le carrefour du 6-9 avec Karine Bécard, Charles Pépin et Christophe Bourseiller. Bonjour à tous.
Bonjour.
À suivre dans le prochain quart d'heure, la question philo Charles Pépin, autour de quel thème est-ce qu'elle porte cette semaine ?
Nous allons parler de musique, ou plus précisément d'émotions musicales.
Pourquoi le monde vous rend-il fou ce matin, Christophe ?
Aujourd'hui, Ali, moi, j'aimerais m'interroger. Est-ce que, par hasard, nous ne sommes pas tous des Karl Lagerfeld ?
Mais si.
Mais d'abord, la revue de presse, évidemment, avec Karine Bécard.
Et on commence, Karine, avec ce malaise de plus en plus grand dans les équipes médicales au sein des clubs de foot.
Effectivement. Que se passe-t-il exactement ? Eh bien, les médecins ne se sentent plus respectés. Leurs diagnostics, si vous préférez, ne sont plus toujours écoutés. C'est ce que je découvre à la lecture de l'équipe ce matin, avec des joueurs qui sont de plus en plus souvent pris de retourner sur le terrain sans être complètement soigné. En fait, les résultats, les performances, les enjeux financiers priment de plus en plus visiblement sur la santé des joueurs. Et c'est en train de devenir insupportable pour les médecins qui sont payés pour accompagner une équipe de football, dépassés désormais par les sports scientists, comme on dit en bon français, et par les préparateurs physiques. Bref, ils sont de plus en plus nombreux, les médecins, à préférer s'en aller. Et c'est d'ailleurs intéressant d'observer que ceux aujourd'hui qui sont recrutés le sont apparemment de plus en plus jeunes. Autrement dit, vous l'aurez compris, ils sont de moins en moins expérimentés et c'est encore plus dur pour eux de résister aux pressions, aux décisions, aux injonctions des clubs. C'est passionnant, vraiment, et c'est à lire, que l'on soit sportif ou pas, dans le journal L'Équipe de ce samedi.
Sinon, dans la presse ce matin, Karine, les agences Fitch et Moody's qui n'ont donc pas dégradé la note souveraine de la France.
C'est à la une, c'est vrai, mais de la presse numérique seulement, puisque les notes sont tombées assez tard hier soir, à la fermeture des marchés financiers. Le soulagement à Bercy, titre d'un commun accord, Le Figaro et Le Parisien ce matin, mais plus intéressant peut-être ce pas de côté proposé ce week-end dans la revue L'Express, qui revient sur le duo plutôt curieux que forme le président Macron et son ministre de l'économie Bruno Le Maire. Un duo qui a maintenant 7 ans et dont on annonce la fin systématiquement à chaque remaniement. Ces dernières semaines, Bruno Le Maire a surjoué l'inquiétude sur l'état des finances de la France, rappelé à l'ordre pour cela par Emmanuel Macron. Depuis, on n'entend plus le ministre. Alors a-t-il eu peur d'être viré du gouvernement ? Pas du tout, décortique le journaliste de L'Express, Paul Chollet, qui nous explique qu'avec ce second quinquennat, le président Macron n'a plus la même autorité, ce qui donnerait des ailes au ministre de l'économie qui devrait, dans les semaines qui viennent, continuer à se faire remarquer. C'est assez amusant et plutôt éclairant, vous verrez. Un mot de politique, toujours avec ce très long reportage, 18 pages, captivante, à la reconquête de l'électorat populaire. Comment aller chercher ces hommes et ces femmes qui ne croient plus dans la politique? C'est la question que se pose à 6 semaines des élections européennes La Croix, l'hebdo de ce week-end, qui a suivi pour cela, pour nous, pendant un an, 2 députés focalisés sur cet électorat populaire. François Ruffin d'un côté, Jean-Philippe Tanguy de l'autre. Un insoumis, un rassemblement national. Et il est sidérant de constater que les méthodes appliquées sont finalement les mêmes. Ils jouent la même proximité, ils affichent la même disponibilité, l'un devant une usine, l'autre au chevet d'une association qui s'oppose aux éoliennes. Voilà pour la forme, parce que sur le fond, en revanche, vous verrez, les mots sont différents. Le Rassemblement national surfe sur le ressentiment. François Ruffin s'y attaque, lui, systématiquement. Et puis dans la presse, également ce matin, et rapidement, vous lirez ou pas l'interview de la présidente de Nestlé France, Muriel Lino, qui fait plutôt profil bas après la contamination de millions de bouteilles de Perrier. S'il faut prendre nos responsabilités devant la justice, on le fera, assure la patronne du groupe. C'est ce qu'elle dit, en tout cas ce matin, dans les colonnes du Parisien, aujourd'hui en France, sans totalement être convaincante. Ce qu'il est, par contre, beaucoup plus convaincant, c'est cette lutte à tous les niveaux contre la déperdition d'eau dans cette région si sèche qu'est le Roussillon. L'indépendant de Perpignan nous raconte que désormais des chiens renifleurs sont dressés pour traquer la moindre fuite d'eau. Dès qu'elle est repérée, elle doit être réparée et ils sont formés pendant 4 ans, ces chiens, pour apprendre à repérer l'odeur du chlore. C'est à la fois incroyable et absolument captivant. Et c'est à lire, je le redis, dans l'indépendant de Perpignan.
Et on termine, Karine, avec les confidences bouleversantes de l'actrice Juliette Binoche.
Oui, ce sont des confidences à ne pas manquer ce matin. Pour Libération, Juliette Binoche revient sur une partie de son long parcours, sur ses débuts en particulier, qu'elle revisite forcément à la lumière aujourd'hui de ce que l'on appelle la révolution MeToo. Cela donne 3 pages tout à fait éclairantes dans lesquelles elle raconte toutes ces scènes de nu, tous ces rôles systématiquement sexualisés, toutes ces agressions aussi sur les tournages, des blessures, explique la comédienne, qui la mettent en rage, mais qui ne lui ont jamais donné envie d'arrêter ce métier. Et vous lirez une succession de moments gênants ou déplacés qui vont probablement vous bousculer, voire vous déranger. 3 pages de récit, parce que ce n'est pas une interview, c'est un récit écrit par la journaliste de Libé, Anne Diatkin, lu et, disons, peaufiné par Juliette Binoche. Durant ces 3 pages, on la sent sur le fil du rasoir, prête à tomber. Mais non, son amour pour le cinéma est manifestement trop fort. Au fond, explique-t-elle, tout est pardonné, tout est transformé. Et elle reconnaît, avec ses mots très forts, tout au final m'a sculpté.
Merci Karine, et à demain évidemment. On va passer maintenant à la question philo à 9h10 avec vous Charles Pépin. Tous les samedis, Charles, vous répondez aux questions des auditeurs d'Inter, et aujourd'hui, vous avez choisi celle-ci.
Bonjour, c'est une question de Francis. Pourquoi c'est si bon quand la musique est bonne ?
Réponse, écoutez,
merci,
Pépin.
Merci beaucoup pour votre question, cher Francis. On sent que vous écoutez souvent la playlist de France Inter. Mais avant de vous répondre sur le propre de l'émotion esthétique musicale, je voudrais d'abord dire ce que c'est le rapport à la beauté en général, qu'elle soit musicale ou picturale ou littéraire ou autre, qui nous fait tant de bien. Quand je dis que c'est beau, oui, quand je suis touché par la beauté, je m'autorise enfin à m'écouter, à me faire confiance. Je n'ai pas besoin de me référer à des critères du beau, d'écouter les experts ou les sachants. Le seul critère de mon émotion esthétique, c'est mon émotion.
Donc quand on dit c'est beau, en vérité, on qu'un seul critère, on s'écoute soi-même.
Voilà, et on pourrait dire autrement, le seul critère d'ailleurs, c'est qu'il n'y en a pas. Et c'est ça qui est si bon, cher Francis et cher Ali, pour reprendre vos mots. Ce qui compte n'est pas ce qui fait que c'est beau, mais ce que la beauté me fait. Paraphrasant Kant, nous pourrions dire que ce n'est pas beau parce que, c'est beau parce qu'il n'y a pas de parce que.
Répétez ça.
Ce n'est pas beau parce que, c'est beau parce qu'il n'y a pas de parce que.
Alors, 300 ans que naissait Emmanuel Kant, on a eu donc un clin d'œil au philosophe allemand, mais au petit déjeuner, quel est le propre de l'émotion esthétique musicale ?
Eh bien, je crois que c'est que la musique touche notre intériorité, peut-être plus encore que la peinture. Et d'ailleurs, dans la littérature, c'est peut-être encore la musique des mots ou la musicalité de la phrase qui éveille ainsi notre
notre vie intérieure.
Qu'est-ce que ça veut dire ?
Eh bien, je voudrais proposer une hypothèse. Alors que notre société exige sans cesse de nous une simplification existentielle, une simplification identitaire, l'émotion musicale nous autorise peut-être à exister dans notre complexité. La polyphonie de la musique, oui, l'existence de plusieurs voix, plusieurs instruments ou parties mélodiques, nous autorise peut-être à exprimer ou à ressentir la multiplicité des parties de notre moi. Mmh. Celle que, précisément, nous sommes sans cesse obligés de taire dans la vie sociale, professionnelle ou, pire, dans nos querelles identitaires sur Twitter devenu X.
Et donc, ça explique quelque chose de la musique.
Exactement. C'est peut-être pourquoi on dit que la musique adoucit les mœurs, car chacun se sentant un peu autre, chacun s'ouvrant plus facilement à tous les autres en lui, se trouve ainsi invité à agresser un peu moins les autres et, pourquoi pas, à avoir envie de danser avec eux.
Prenons différents exemples. Alors,
D'abord, le chant polyphonique corse, où là, on entend la polyphonie au sens propre. Il y a différentes voix qui chantent ensemble ou à tour de rôle. Eh bien, chacune de ces voix pourrait être une part de vous-même, ou plutôt parler à une part de vous-même, éveiller une part de vous-même, si bien que vous vous sentez enfin exister pleinement, autorisé à être complexe, riche, ambigu et même incohérent, contradictoire, bref, vivant. Je vais d'ailleurs vous dire quelque chose de discutable, mais je le tente quand même.
Allez-y.
Peut-être qu'un tableau n'est pas de nature à éveiller ainsi toutes les parts, toutes les dimensions de notre vie intérieure.
Autre exemple.
Prenons un exemple de polyphonie en un sens moins littéral. Dans un morceau de rock, mettons Smells Like Teen Spirit de Nirvana.
Oui.
Vous avez la voix de Kurt Cobain qui parle à une partie de vous-même, Ali. Mettons votre âme mélancolique.
Oui.
Puis la batterie de Dave Grohl qui parle, qui vous dit autre chose. Disons que vous êtes capable de vous battre même quand la morale n'y est pas. Et puis vous avez la basse de Christ Novoselic qui parle encore à une autre part de vous-même. Et ainsi de suite. Et voilà pourquoi c'est si bon. Car elles sont rares les occasions d'être enfin tout entier convoqué, tout entier soi, pas nécessairement réconcilié, pas nécessairement cohérent, mais là, enfin, avec en plus cette envie de danser avec les autres, d'être ensemble aux deux sens du terme. D'abord, réunir les différentes parts de soi dans un même mouvement, ensuite se réunir avec les autres dans un même mouvement et peut-être même sur une piste de danse.
Oui, pourquoi pas. Et puis, voilà. Dernière piste, on n'aura pas le temps de développer, mais
alors, une piste pour le coup métaphysique, qui n'est pas une piste de danse, peut-être que la vérité du monde est musique, que la vérité dernière du monde, c'est une sorte de battement primordial, de mélodie première, d'harmonie fondamentale. Et peut-être que c'est à cette vérité que la musique nous donne accès, que c'est cette vérité du monde qu'elle nous permet d'entendre ou d'entrevoir. Eh ben écoutez,
pourquoi Goldman ?
Bah peut-être parce que ce que veut dire Goldman, à la limite, Goldman devenu Nietzschéen, c'est que quand la musique est bonne, elle nous donne à entendre autre chose qu'elle-même, peut-être cette vérité dernière du monde ou de soi, et on comprend aussi mieux l'affirmation de Nietzsche, célèbre dans le Crépuscule des idoles, la vie sans musique serait tout simplement une erreur, une fatigue, un exil.
Jean-Jacques Goldman expliqué par Nietzsche. Merci Charles Pépin, c'était la question philo.
Et à 8h55, c'est l'heure de retrouver la petite musique de Christophe Bourseiller, Ce monde me rend fou. Et on commence avec cette célèbre voix de la mode.
Pourquoi les lunettes noires, par exemple ?
Parce que j'aime pas trop les projecteurs qu'on a dans la figure. C'est plus agréable comme ça. Et puis, ça donne un mystère dans la musique que moi, je peux observer sans être trop observé. Les états d'âme qui s'expriment par les yeux, c'est pas un truc que j'ai envie de sur le marché.
Oui, nous non plus, on n'aime pas trop les projecteurs.
Non, il a raison en tout.
C'était Karl Lagerfeld, interviewé par Guillaume Erner sur France Inter. Pourquoi Karl Lagerfeld ce matin, Christophe ?
Mais parce qu'aujourd'hui, Marion, tel Diogène, gère dans Athènes à midi une lampe allumée, Marion, tout en m'exclamant, je cherche un homme. Où ce qui sont les hommes ? Au sens humaniste du terme, bien sûr, je ne verse pas dans le masculinisme. Il n'y a plus que des clones, Marion. Je vis entouré de gens qui disent la même chose, qui pensent la même chose, qui craignent les mêmes choses, tout en se croyant unique. Et comme dit un proverbe japonais, « Deru kugi wa utareru ».
J'allais le dire.
Ouais, c'est ça, c'est important. C'est-à-dire, comme il se traduit, « Le clou qui dépasse attire le marteau ». Or, Karl Lagerfeld, qui nous a quittés en 2019, c'était justement le clou qui dépassait. L'excentricité incarnée, c'est-à-dire le rejet du centre mou, Marion. Lagerfeld, c'était la percée du sujet, le triomphe du moi, de l'ego, d'un Karl l'autre, après Marx, Lagerfeld. Oui, Marion, Lagerfeld, c'était la vie même, l'art de sortir du lot.
Et il y a
parfaitement réussi. À ce propos, vous avez lu un livre.
Ah mais oui, oh que oui, Ali. Le journaliste de mode américain William Middleton vient en effet de commettre un pavé enrichi de nombreuses photos qui s'intitule avec emphase Paradise Now, le paradis maintenant, la vie extraordinaire de Karl Lagerfeld. Et vous saisissez donc, car je vous sais à l'acre, pourquoi ce matin je vous en cause, Ali. En oui. peu de mots, Middleton résume le style Lagerfeld. Je cite, une queue de cheval bien serrée, des lunettes noires, une tenue stricte, une vaste culture, l'art des commentaires amusants, quoique souvent malveillants. Alors il a oublié l'éventail. Je vous donne un exemple illustrant le bonhomme. Sa maison Chanel tourne une campagne de pub au château d'Écouen, le musée de la Renaissance situé au nord de Paris. Quand Karl débarque, avec 4 heures de retard, bah, il fait presque nuit et il peste alors contre le manque de luminosité qui va entraver le tournage, sans jamais ôter ses lunettes noires. Vous voyez, ça c'est Lagerfeld.
Et on lui doit aussi d'étonnants défilés de mode.
Bah, des défilés aux confins de la mode et de la provoque, Marion. En 2014, il transforme le Grand Palais en supermarché et demande aux mannequins de pousser des caddies. Un an plus tard, dans le même espace, il recrée une rue de Paris avec 4 façades d'immeubles haussmanniens de 7 étages. Il recrée des trottoirs, des pavés, des plaques d'égout et dans ce décor de cinéma, il orchestre une manif, oui mais une manif de top modèle, qui scande des slogans et brandissent des pancartes telles que « L'histoire et son histoire à elle »,« Les dames d'abord »,« Sans les femmes, il n'y aurait pas d'hommes ». Et pourtant, il déclare un jour « Je ne me vois pas comme un provocateur. Mais il se peut que je donne souvent cette impression parce que ce qui me semble normal ne l'est pas pour les autres. »
Alors attendez, ce qui me semble normal ne l'est pas pour les autres, explication ?
Telle est l'essence même de l'excentrique assumé, Ali. Quand le roi Charles VIII, 1368-1422, soudain se tient immobile des heures entières car il a peur que ses os se cassent comme du verre, cela lui semble normal. Quand le même Charles VIII court tout nu à travers son palais, poursuivi par un démon imaginaire, il trouve ça tout aussi normal. Lorsque la mère de Charles Quint, dit Jeanne la Folle, épouse Philippe le Beau, elle en tombe amoureuse au point de développer une jalousie paranoïaque. Quand Philippe le Beau meurt en 1506, elle refuse de le croire mort et elle trimballe le cadavre où qu'elle aille. Mieux encore, la nuit venue, elle surveille le cercueil pour éviter que son mari mort ne parte la tromper avec un spectre féminin. Alors doit-on pour autant la juger folle ? Oh non, Marion et Ali, car nous aussi nous sommes fous de nous lever à l'aube pour pérorer dans des micros.
Avant l'aube.
Vous, c'est avant l'aube en plus. N'oublions jamais en conclusion de sortir du troupeau. J'aime à croiser dans les rues des jeunes qui affichent un style vestimentaire narquois, revisitant de façon critique les années passées, devenant mi-punk, mi-hippie, mi-trans, en une